d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du mardi 20 novembre 2018. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. Au Mali, affrontement meurtrier entre l'armée et des chasseurs traditionnels dans le centre du pays. Un dernier bilan fait état d'au moins 4 morts. Au Nigeria, 44 soldats tués dans des combats avec des éléments de Boko Haram. Deux frappes de l'aviation américaine tuent 37 présumés combattants d'Al-Shabaab en Somalie. Ici aux États-Unis, un juge bloque une décision de l'administration Trump sur les demandes d'asile. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, des affrontements entre l'armée et des chasseurs traditionnels ont fait 4 morts et 5 blessés dans le cercle de Koro. L'armée malienne a procédé à l'arrestation de 15 personnes, Kassim Traoré.
Koro Matinta est une localité dangereuse dans le cercle de Koro, région de Mopti. Cela à cause des infiltrations djihadistes. Le dimanche dernier, des hommes armés non identifiés ont réveillé la population du dit village par des coups de feu. Face à cette situation, les combattants de la milice d'Ana Amasagou sont allés s'installer dans le village pour sécuriser la population et leurs biens, nous dit Youssouf Toloba, chef d'état-major de la milice Dogon. Le même jour, 5 véhicules pick-up d'un détachement des femmes basées à Koro ont encerclé le village vers 5h du matin. Selon le gouverneur de la région de Mopti, le général de division Sidi Alassane Touré, des femmes étaient en patrouille dans le cercle de Koro et ils ont entendu des coups de feu. Ils se sont rendus dans la localité. Dès que les chasseurs ont aperçu leur véhicule, ils ont ouvert le feu sur eux. L'armée a riposté. Il y a eu des échanges de tirs. Le bilan est de 4 chasseurs tués, 5 blessés. Dana Amasagou est en colère parce que ce n'est pas la première fois que les femmes s'attaquent à eux en leur causant des pertes en vies humaines et matérielles. Il faut rappeler que le 6 octobre dernier, Dana Amasagou a signé une convention de cesser le feu avec le gouvernement malien. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, 44 soldats et 9 agriculteurs ont été tués, 12 autres personnes enlevées lors d'attaques attribuées à Boko Haram dans le nord-est du pays. Le groupe djihadiste se signale de nouveau à 3 mois de l'élection présidentielle. Raissa Girondin.
Les 44 soldats ont été tués dans des attaques de bases militaires dimanche. La base est située à Métélé, un village reculé près de la frontière avec le Niger. Les assaillants, arrivés à bord d'une 20aine de camions, ont envahi la base et pillé les armes. C'est l'une des pires pertes que nous ayons subies en termes d'hommes et d'équipements dans les opérations de contre-insurrection, a affirmé une source militaire. Lundi, des assaillants ont tué 9 cultivateurs et en ont enlevé 12 alors qu'ils travaillaient dans leur champ à 5 km de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Selon le chef du village, Mohamed Mamenti, les insurgés ont enlevé 12 personnes, dont des femmes, et blessé à la machette 3 personnes ayant refusé de les suivre.
Au Tchad, des insurgés de la localité de Miski, située dans les montagnes du Tibesti, ont dénoncé la situation humanitaire catastrophique pour les populations à la suite, selon eux, d'un blocus de l'armée tchadienne. Les 2400 habitants de Miski sont en manque de nourriture et il y a des blessés non soignés du fait d'un blocus décidé par l'armée tchadienne il y a 3 jours. Selon Mouili Sougi, le porte-parole du comité d'autodéfense de Miski qui se bat contre l'armée. Dimanche, le ministre tchadien de la Défense avait affirmé que l'armée avait délogé l'ennemi à Miski. En République démocratique du Congo, 2 travailleurs humanitaires congolais ont été tués la semaine dernière par des hommes armés non identifiés dans le Tanganyika, dans le sud-est du pays. Nous sommes dévastés de confirmer la perte tragique de nos 2 employés, a déclaré Mike Myers, le PDG de l'ONG américaine, dans un communiqué ce mardi. L'incident a eu lieu dans une localité située à environ 80 km de Kalemie, la capitale du Tanganyika, où le conflit entre Bantous et Pygmées a causé un déplacement massif de population. Le Gabon s'est dit disposé le moment venu à recevoir une mission de l'Union africaine. C'est en réponse à l'UA qui a annoncé samedi l'envoi d'une mission d'information et d'écoute à Libreville concernant la santé du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Toutefois, le gouvernement s'étonne des voix inhabituelles de l'annonce de l'Union africaine en indiquant que la réception de la mission pourra se faire à une date qui sera convenue par les deux parties. La solidité des institutions gabonaises n'est plus à prouver, précise le communiqué signé du ministre des Affaires étrangères Régis Emongold. L'aviation américaine a mené deux frappes en Somalie, tuant 37 présumés combattants d'Al-Shabaab hier, ce qu'a indiqué aujourd'hui le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, qui précise qu'aucun civil n'a été tué dans ces opérations. Des sources locales ont indiqué à la VOA que les frappes ont ciblé des véhicules et des membres de la milice dans le centre somalien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge fédéral américain a bloqué une ordonnance du président Trump interdisant la possibilité d'asile aux migrants qui franchissent illégalement la frontière sud. Les détails avec Nanit Talani.
Dans sa décision, le juge de la Californie, John Tigar, affirme qu'en vertu de la législation américaine, tout étranger arrivant aux États-Unis, qu'il se trouve ou non dans un port d'arrivée désigné, qu'il soit légal ou illégal, peut demander l'asile, quelle que soit la manière dont il est entré dans le pays. L'affaire concerne l'ordre que Donald Trump a signé plus tôt ce mois en réponse à une caravane de 3000 migrants d'Amérique latine se dirigeant vers les États-Unis. Il stipule que les demandes d'asile des personnes entrées illégalement aux États-Unis ne seront pas instruites. Cette décision de Trump était donc illégale. Quelle que soit l'étendue de l'autorité du président, il ne peut réécrire les lois sur l'immigration pour imposer une condition expressément interdite par le Congrès, ajoute le juge. L'ordonnance restrictive du juge Tigar est immédiatement entrée en vigueur et restera en vigueur jusqu'à l'audience du tribunal en décembre pour statuer sur l'affaire. Pendant ce temps, la caravane des 3000 migrants est arrivée à Tijuana, la ville mexicaine limitrophe des États-Unis. Les autorités de la ville s'attendent à ce que les chiffres augmentent, 10 000 dans les prochaines semaines.
En Afghanistan, au moins 40 personnes ont été tuées, 60 blessées dans un attentat suicide au cours d'un rassemblement de religieux de haut rang célébrant la naissance du prophète Mohammed à Kaboul. Le point avec Bagasikoura.
4 corps sans vie et 60 blessés ont pour l'instant été évacués vers les hôpitaux, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majiro. Le kamikaze s'est fait exploser dans l'Uranus Wedding Palace où s'étaient réunis des oulémas pour célébrer en ce jour la naissance du prophète, a dit le porte-parole de la police de Kaboul, Bachir Mujahid. Le ministre de la Défense, Najid Danish, a confirmé l'information, soulignant que des oulémas venus de tous les pays et d'autres personnes participaient à la cérémonie dans la salle des fêtes. Un responsable de la salle raconte qu'environ 1000 personnes étaient présentes au moment de l'explosion. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué, mais le groupe État islamique est le plus souvent à l'origine des attaques suicides en Afghanistan.
L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé une aide de 500 millions de dollars en faveur des Yéménites qui sont menacés de famine. Chaque pays donnera 250 millions de dollars pour aider plus de 10 millions de personnes à se nourrir. Il a ajouté que les dons étaient destinés aux agences des Nations Unies et des ONG locales et internationales travaillant au Yémen. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, piliers de la coalition anti-rebelle au Yémen, ainsi que le Koweït, ont déjà versé 1,250 milliard de dollars au plan d'intervention humanitaire de l'ONU dans ce pays pour l'année 2018. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que son pays ne signerait pas le pacte mondial de l'ONU sur les migrations qui doit être entériné en décembre au Maroc. « Nous nous sommes engagés à surveiller nos frontières contre l'arrivée de migrants illégaux », a indiqué le Premier ministre dans un communiqué. Les pays de l'ONU, à l'exception des États-Unis, ont approuvé en juillet la création de ce pacte mondial non contraignant sur les migrations. Quelques jours plus tard, la Hongrie a annoncé son retrait de cet accord. L'ONG Human Rights Watch appelle le site de tourisme Booking.com à suivre l'exemple d'Airbnb et a cessé de proposer des locations de logements dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. Booking.com et d'autres entreprises contribuent à pérenniser un régime discriminatoire en Cisjordanie en poursuivant leurs activités en Cisjordanie, écrivent Human Rights Watch et l'ONG israélienne Kerem Navot dans un rapport publié ce mardi. La Cisjordanie est occupée par l'armée israélienne depuis plus de 50 ans. Le Kremlin dénonce ce qu'elle considère comme une ingérence dans l'élection prévue cette semaine du nouveau président d'Interpol. Ceci après une levée de boucliers, notamment de sénateurs américains, après des informations indiquant qu'un général russe figurait parmi les favoris. Il s'agit d'une forme d'ingérence dans le processus électoral et dans les élections d'une organisation internationale, a affirmé le Kremlin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
En Angola, la société publique des hydrocarbures Sonangol veut céder sa participation de 25% dans Unitel, le plus grand opérateur mobile du pays, dans le but de recentrer la société sur le pétrole et le gaz. Sonangol espère pouvoir boucler l'opération d'ici la fin de l'année prochaine. Aucun montant n'a encore été annoncé et on ne sait toujours pas si la société est entrée en pourparlers avec de potentiels acheteurs. Au Rwanda, le brasseur Braliroa compte produire sur place d'ici le mois prochain la bière Heineken, l'une de ses marques phares. Cela fera du Rwanda le 9e pays africain qui fabrique la dite boisson. En outre, le prix de la bouteille, jusqu'ici importée depuis les Pays-Bas, passera de 1 000 à 800 francs rwandais. En dehors de la satisfaction des consommateurs rwandais, l'entreprise compte exporter sa production vers les pays voisins et gagner plus de consommateurs. En 2017, Braliroa a réalisé un chiffre d'affaires de 101 millions de dollars. Terminons avec la Banque Total Ghana qui a réalisé un bénéfice net de 34,5 millions de cédis ghanéens au terme des 9 premiers mois de 2018. Cette performance représente une hausse de 40% en comparaison au niveau de cet indicateur financier pour la même période en 2017. Cette banque doit ce résultat à un chiffre d'affaires qui a atteint 1,7 milliard de cédis sur la période, ce qui lui a permis de s'en tirer avec un résultat d'exploitation de 150 millions de cédis.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Encore un nouveau capitaine pour le Cameroun face au Brésil.
Après Karl Toko et Kambi vendredi dernier face au Maroc, cette fois-ci c'est le latéral gauche de Brighton, Gaëtan Bong, qui récupère le brassard de capitaine à la faveur du match amical entre le Brésil et le Cameroun. À Londres ce soir, le sélectionneur des Lions indomptables Clarence Seedorf continue de faire tourner le capitanat puisqu'il vient ici de confier le brassard à un cinquième joueur différent en cinq matchs depuis son arrivée.
Le Ghana vise la première place dans le mondial féminin des moins de 17 ans.
Oui, c'est la troisième journée de la phase des poules du mondial féminin Uruguay 2018. Le Ghana, déjà qualifié pour les quarts de finale, tentera de s'adjuger la tête du groupe A. Dans le groupe B, rien n'est encore joué. L'Afrique du Sud, après une défaite et un match nul, reste toujours en course pour la qualification. Ce soir, les Bayana affrontent le Brésil. Les Sud-Africaines doivent s'imposer sur la plus large différence de but possible et espérer un faux pas du Japon ou du Mexique.
En Europe, Coutinho a repris l'entraînement avant le choc contre l'Atlético.
Oui, le milieu offensif brésilien a fait son retour parmi les joueurs disponibles du Barça, qui se sont entraînés aujourd'hui après la trêve internationale. Philippe Coutinho souffrait d'une déchirure au biceps de la cuisse gauche, subie lors du match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan le 6 novembre. Selon la presse espagnole, sauf contretemps, Coutinho pourrait recevoir le feu vert médical vendredi et serait ainsi disponible pour disputer le choc de samedi face à l'Atlético Madrid pour la 13e journée de Ligue.
Athlétisme pour terminer, Nigel Levin suspendu 4 ans pour dopage.
Le sprinteur britannique champion d'Europe du 4x400 mètres en 2014 à Zurich, testé positif au clenbutérol, a été suspendu pour une durée de 4 ans, d'après l'annonce faite par l'agence britannique antidopage. Nigel Levin, 29 ans, a subi un contrôle antidopage le 24 novembre 2017. Il était suspendu à titre provisoire depuis février dernier. La suspension étant rétroactive, elle prend effet à compter du 13 décembre 2017 et Levin aura purgé sa peine le 12 décembre 2021.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. Comment établir une relation de confiance entre, d'une part, les jeunes et, d'autre part, les forces de sécurité et le système judiciaire? C'est l'objectif d'une rencontre qui s'est tenue cette semaine à Mopti. La justice, la police et la gendarmerie se sont prêtés aux questions des jeunes sur le fonctionnement de ces institutions. Notre correspondant Mamoudou Bokoum nous fait le point.
Les jeunes se méfient des acteurs de la chaîne pénale, notamment la justice, la police et la gendarmerie, ce qui risque de compromettre certains droits humains. Ce face-à-face vise donc à dissiper cette méfiance entre ces différentes parties. Negetine Diarra est le directeur exécutif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains.
Nous avons constaté que les jeunes qui sont les plus nombreux, les plus dynamiques, les plus mobiles, se méfient beaucoup plus au service de la chaîne pénale. Et donc c'est pour faire en sorte que ces jeunes puissent connaître ces services et afin qu'ils puissent collaborer avec les acteurs de la chaîne pénale, qu'ils puissent s'intéresser à ce que ces services font et puissent aussi exposer leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs difficultés, les difficultés que ces jeunes rencontrent dans la recherche de leurs droits au quotidien.
Cette recherche de droits passe par la connaissance du système, d'où l'importance d'une telle rencontre. Fatoumata Sanogo est un leader de la jeunesse de Mopti.
L'importance d'une telle rencontre, c'est vraiment capital dans la vie de la jeunesse parce que ça permet de démystifier la chaîne pénale et puis les différentes procédures pour pouvoir saisir la justice. Et ça permet également de rapprocher le justiciable des justiciers puisque ça permet d'établir une communication. Et si la communication est fluide, ça permet facilement aux uns et aux autres de se comprendre et d'éviter des situations d'incompréhension.
Pour le secrétaire général du Conseil régional des jeunes, il est plus que nécessaire d'établir un dialogue entre ces différentes structures. Abdoulaye Aboubakrine Diko.
C'est une rencontre indispensable. En fait. Vous ne pouvez pas créer une confiance entre les gens, vous ne pouvez pas amener la cohésion sociale entre les personnes, vous ne pouvez pas amener les gens à travailler ensemble. Tant que vous n'échangez pas avec les personnes-là, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce qu'ils travaillent. Donc c'est déjà de rencontre, s'il n'existait pas, il faut les créer.
Cette démarche est saluée et appréciée par les autorités régionales. Lassana Sekou Camara, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur.
Le gouvernorat de la région de Mopti les accompagne dans la tenue de cet atelier et les soutient. Notre constitution dit que la personne humaine est sacré. C'est une manière pour moi de résoudre cette équation, protéger les droits et devoirs des personnes, mais aussi assurer notre protection et notre sécurité.
Les différentes parties veulent l'institution d'un cadre d'échange pour une meilleure collaboration. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, les autorités ont décidé, après enquête, de fermer une centaine d'établissements privés de soins et des dépôts pharmaceutiques qui ne se seraient pas conformés aux normes. C'est un reportage à N'Djamena de André Kolmajingar.
Sur plus de 300 établissements contrôlés dans les 10 communes de la ville de N'Djamena, 93 doivent être fermés et 101 sont mis en demeure parce qu'ils sont soit installés sur les lieux non indiqués, soit ne respectent pas les règles d'hygiène ou encore la marge bénéficiaire. Ils auront un délai qui sera fixé par un comité de suivi pour se conformer aux normes. Pour le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Tchad, Dr Haroun Badawi, la mission a une limite qui ne lui a pas permis de contrôler tous les établissements de la capitale.
C'était juste à la sortie de la saison pluvieuse, donc la mission n'a pas pu accéder à certaines zones de la ville de N'Djamena. D'autres ont pu échapper parce que pendant la mission, ils ont complètement enlevé les plaques. Certains ont même peint les devantures de leur structure. Tous ceux-là ont été relevés. Une autre procédure sera engagée.
Des procédures seront également engagées contre les techniciens du ministère de la Santé publique qui ont abusé de la confiance placée en eux, informe par ailleurs Dr Haroun Badawi.
Il y a des gens qui ont loué leur licence à des personnes non professionnelles. Pour ceux-là, la mesure est claire. Ces pharmacies sont à fermer. Nous avons aussi constaté qu'il y a des arrêtés autorisant des techniciens à exercer, mais les 7 à d'autres personnes. Et pour ceux-là, les mesures sont déjà prises. Nous avons constaté que les gens s'approvisionnent au niveau du marché de la riz. Il y a un impact négatif sur la santé de la population. Est-ce que tout Tchadien peut vendre les armes en pleine rue? Du moment s'il est interdit de vendre les armes en pleine rue, il est aussi interdit de vendre les médicaments en pleine rue. Nous pensons que c'est un début, mais ce début ne peut aboutir que si le premier responsable du ministère de la Santé a les mains libres.
Conscient de la gravité de la situation, le ministre de la Santé publique Aziz Mohamed Saleh prend l'engagement d'aller en guerre contre ces établissements et les détenteurs des pharmacies de la rue qui sont en porte-à-faux avec les normes et avec la législation.
Nous allons lancer le processus pour la création d'une police sanitaire pour permettre de faire ce travail de police quotidiennement dans le cadre de nos actions et ça va toucher aussi les actions de lutte contre le faux médicament dans nos rues. Un certain nombre de provinces vont également être ciblées dès le 1er janvier 2019 pour également faire ce travail pour qu'il y ait une cartographie sanitaire qui corresponde aux besoins de la population.
Selon les autorités sanitaires, cette opération vise à assurer à la population l'accès aux services de santé de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité et lutter contre la prolifération anarchique des établissements privés de soins et des dépôts pharmaceutiques qui exercent sans aucun respect des normes. André Godmadingar Ndjamena, VO Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur le consommer local. Tous les 20 novembre, les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique à travers la promotion de produits locaux. En dépit du patriotisme économique, le consommer local fait face au défi de la qualité des produits et au complexe du produit étranger. Quels sont les produits que votre pays peut valoriser ? Êtes-vous prêt à les acheter un peu plus cher pour soutenir l'économie nationale ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Les 30 années de conflit en Somalie ont laissé environ une personne sur trois touchée par des problèmes de santé mentale tels que le trouble de stress post-traumatique. Cependant, il n'y a que trois psychiatres agréés dans tout le pays. Un reportage de Mohamed Cheikh No, rendu par Arzuma Compaoré.
Ayan Adam, 20 ans, et sa mère ont fui la Somalie pour le Kenya après l'attaque du groupe terroriste Al-Shabaab en 2010 dans leur quartier de Mogadiscio. Mais leur demande d'asile a été rejetée. Ayan Adam, patiente souffrant de TSPT.
Nous avons fui les bandes armées et les explosions à Mogadiscio et avons rejoint le camp de réfugiés d'Agadir. Mais lorsque nos espoirs ont été déçus, nous avons dû retourner chez nous.
Après une dépression mentale, Ayan a aménagé dans ce centre pour traiter son trouble de stress post-traumatique. Alima Roble, mère d'Ayan.
Alors que je la recherchais partout, on m'a informé que ma fille avait été retrouvée par une agence humanitaire de la région. Je m'y suis précipitée et j'ai vu qu'elle avait d'horribles bleus sur son corps et qu'elle criait.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un tiers des Somaliens sont touchés par des problèmes de santé mentale, tels que le trouble de stress post-traumatique. Mais Ayan est l'une des rares personnes à bénéficier d'un traitement approprié. Docteur Abdourahman Ali Awale, psychiatre.
Les causes du syndrome de stress post-traumatique dans ce pays incluent une peur constante due à l'hostilité des populations environnantes, aux explosions, aux déplacements, au chômage et à la pauvreté, qui est en fait l'une des principales causes du stress.
L'attention accordée par la Somalie à la sécurité fait qu'il existe peu de ressources pour traiter les problèmes de santé mentale. La dépendance à des drogues comme le stimulant narcotique contenu dans la feuille de rat ne fait qu'aggraver le problème. Les patients souffrent d'un manque de médicaments, d'infrastructures médicales et de médecins.
Dr Abdul Rizak Youssouf, directeur du service médical au ministère de la Santé.
Bien que le TSPT a été inclus dans le plan stratégique national de la Somalie, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données de base officielles. Cela a retardé l'intervention nécessaire de l'État contre le TSPT en matière de traitement, de prévention contre le cancer psychosocial. Tous ces obstacles nous empêchent de lutter efficacement contre le TSPT.
Pendant ce temps, des Somaliens comme Ayan font de leur mieux pour surmonter le traumatisme de la violence en espérant pouvoir un jour vivre une vie normale.
Le Monde aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews, des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également sur notre site internet voafrique.com et sur Facebook. À bientôt.
Comment faciliter le vivre ensemble entre les jeunes Mauritaniens tout en luttant contre le chômage qui frappe durement la jeunesse? C'est pour trouver un début de réponse à cette question que le président de l'ONG La Marmite du Partage a ouvert à Nouakchott un centre de loisirs. John Lyndon était récemment de passage dans le pays. Il nous propose ce reportage.
Dans la capitale mauritanienne, Khalid Diallo est l'un des jeunes les plus connus. Et s'il est tant connu, c'est qu'ici, beaucoup le disent proche du peuple, mais surtout proche des jeunes. Président de la Marmite du Partage, une ONG qu'il a créée il y a quelques années, Khali consacre son temps et ses moyens financiers aux jeunes. L'une de ses dernières réalisations, la Maison des loisirs, qui est en fait un centre d'animation et d'échange. Khalil Diallo, président de la Marmite du Partage.
C'est un centre que je mets en place pour permettre aux jeunes issus de différentes communautés, de toutes les races, puissent se rencontrer ici, puissent se divertir, puissent discuter, puissent se connaître.
Mais la mission de ce centre, selon son fondateur, va bien au-delà du divertissement.
C'est vrai que c'est une entreprise sociale, mais le fait d'amener tous les jeunes Mauritaniens ensemble à se retrouver ici, à discuter ici, ça leur permet de se connaître, parce que quand on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on va cultiver la méfiance, et en cultivant la méfiance, on va cultiver la haine.
Situé à environ 5 minutes de la présidence de la République, le centre dispose de plusieurs attractions et installations. Un restaurant, un salon de coiffure, des salles de visionnage pour les amoureux de foot, une connexion Wi-Fi gratuite, des PlayStation, une salle de gym et des jeux. Pour lutter contre le chômage, le centre emploie également une dizaine de jeunes. Amadou Fall, un jeune employé du centre.
Tu sais, ici, c'est très dur. Toute la jeunesse est en train de chômer. Pas de boulot ni rien. Il est là, il est en train de nous aider. On est là, on bosse et puis on n'a pas de problème.
Des idées qu'il continuera sans doute encore de mûrir pour apporter encore et toujours plus à la jeunesse mauritanienne, voire africaine.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Cheikh Thierrot qui était à la mise en onde. La présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente écoute.
On the last flight to you, hey.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.